RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Thibaut Giangrande.
Et comme tous les lundis soirs, les drôles de dames sont là jusqu'à 22h. Julien Laurence, Paulo Breitner, Fred Hermel, Johan Crochet, 32-16. Si vous voulez les interpeller, leur poser une question, 21h45, les drôles de dames seront tout à vous. À suivre, la minute de Fred, le Napoli qui est en tête du Calcio. Mais d'abord, Paulo, la Bundesliga. Et on pensait Dortmund enfin lancé, peut-être, en tout cas après les deux derniers succès larges contre Bochum, le Celtic la semaine dernière s'éteint en Ligue des Champions. Mais samedi, rechute, défaite à Berlin 2-1 face à l'Union.
Alors rechute en plus avec les mêmes caractéristiques qui touchent ce club depuis des années, c'est le syndrome des montagnes russes. Et les montagnes russes, c'est-à-dire que tu sais pas pourquoi ce club se met à jouer et peut mettre 3-0 à tout le monde, et d'un seul coup, ils vont à Union Berlin et ils font une première mi-temps dramatique. Personne ne s'explique ces variations dans le jeu de cette équipe. C'était quasiment l'équipe type qu'on voyait depuis quelques semaines. Il y avait Bayer qui était côté droit, qui pose problème d'ailleurs parce qu'Adeyemi s'est blessé, on en avait parlé. Et en fait, personne ne comprend, mais personne n'excuse. Comment on peut avoir cet état d'esprit rentré sur le terrain? Alors on peut toujours après chercher les statistiques. Union Berlin a couru 126 km pendant cette rencontre. On sait très bien ce que ça veut dire. En gros, la besogne est de retour du côté d'Union. Très bien. Mais quand tu as l'effectif du Borussia Dortmund, tu dois montrer un autre visage. Et là, il y a eu la déculottée qui se sont pris à Stuttgart le 5-1. Et là, ils se prennent une raclée contre une équipe qui est théoriquement en seconde partie de classement en fin de saison, en théorie. Mais et ils ne comprennent pas. Et disent, mais comment on peut passer, mettre une raclée contre le Celtic et puis cette performance dramatique? Donc ça, c'est toute la question. Et donc, il n'y a pas d'effet Nouri Sahin. Et donc, on se repose la question, mais qu'est-ce qui se passe? On n'arrête pas de changer les coachs. On n'arrête pas de changer les coachs adjoints. On met une nouvelle structure, etc. Et ça ne fonctionne toujours. On accusait. Non, en fait, ouais. Non. Quand je réfléchis vraiment. Bah, alors, moi, je pense que Nouri Sahin est un petit peu coupable de ce qui se passe. C'est ce que le journal Bild, qui n'est pas toujours très intéressant à lire, mais dit. Mais ils ont quand même acheté 77 millions de joueurs, certains joueurs qui restaient sur le banc ou qui sont problématiques, qui ne sont pas à niveau. Je parlais de Max Bayer. Mettre Max Bayer sur le côté droit, quand tu sais comment il jouait à Hoffenheim, à mon avis, c'est peut-être problématique. Il est en train de perdre Sabitzer, justement, parce que dans son schéma de jeu, il veut le mettre à droite. Donc, il ne joue déjà plus en ce moment. Mais c'est super important. Julian Brandt en position de numéro 10. Est-ce que c'est un vrai numéro 10 ou plutôt, j'ai envie de dire, un peu comme un Niskens qui travaille pour un vrai numéro 10. Je pense que c'est autre chose. Mais honnêtement, ça change tout le temps. Il ne se passe rien. Il y a toujours des variations dans le jeu qui sont très importantes. Et surtout, il y a l'état d'esprit. Tu peux pas commencer tu peux te planter une fois dans la saison où les joueurs sont pas là. Ça nous est tous arrivé à regarder des équipes. Tu comprends pas. Ben, en fait, ils sont crevés, etc. Mais quand c'est systémique et systématique, ça devient problématique. Après, donc ça, c'est le bloc. Ouais. Vas-y.
Non, je vais interroger Julien, peut-être parenthèse rapide, mais quand tu mets 7-1 au Celtic de 2024, c'est peut-être pas une performance si incroyable que ça, non?
Non, c'est une bonne équipe, mais c'est une équipe qui est bien trop naïve et bien trop ouverte, on va dire, à l'adversaire. Ouais. Mais après, c'est un match de fou aussi de la part de Dortmund, dans le sens où je crois ils ont un expected goal de 2,1 ou 2, ils marquent 7 buts, quoi. C'est-à-dire que même contre le Celtic, ils marquent des buts qu'ils auraient jamais dû marquer en temps normal, des frappes, Schmeichel qui fait n'importe quoi dans les buts. Donc, cette victoire-là, 7-1, elle était aussi trompeuse un petit peu, moi, j'ai trouvé.
Et l'égalisation du Celtic, franchement, t'as pas le droit de défendre comme ça sur un mec d'un mètre 73, quoi.
Deux minutes après le score, ouais.
Ben oui, c'est dramatique. Donc tout ça fait que ça repose la question. Et puis toujours pareil, les journalistes cherchent des excuses. Ah oui, mais c'est les anciens, Mats Hummels, Marco Reus, qui finalement mettaient une mauvaise ambiance dans le vestiaire. Ben, ils sont plus là, Mats Hummels et Reus. Donc c'est quoi, où est le problème? Et toujours on parle du Borussia Dortmund aussi, de ce manque de joueurs charismatiques qui pourraient porter l'équipe. On sait que Bellingham a porté l'équipe pendant un moment, mais qu'il était en partance. On sait que Haaland était aussi là pendant un moment assez court. Donc peut-être que c'est toute une réflexion globale à avoir au Borussia Dortmund. Et j'entends que Tsor pourrait revenir, donc l'ancien grand joueur, 17 ans au Borussia Dortmund, ancien recruteur, etc., directeur sportif, va revenir au club, apparemment au conseil de surveillance, et ça, c'est peut-être une façon de dire la Schlag va revenir quelque part, parce qu'il faut changer quelque chose.
Et le Borussia Dortmund qui est ce soir 7e avec 10 points, à 4 points du Bayern, du RB Leipzig, et à 1 point seulement, Polo, du Bayer Leverkusen.
Alors là,
la surprise du week-end, finalement, c'est qu'il n'y a pas eu le Chabi Time, tu vois, quand il est plus là, on est surpris.
Moi, c'est le Chabi Time, si tu veux, ça m'a toujours un peu fatigué, hein, parce que c'est une façon d'expliquer l'inexplicable qui, moi, me fatigue un petit peu.
Parce que Polo, il explique ce qui se passe.
Voilà, c'est la différence.
Là, je peux expliquer ce qui se passe. Pour moi, le club, c'est
contre Kiel.
Ouais. Contre Kiel. Donc, mais c'est pas, même pas ça. Le scénario, c'est tu mènes 2-0. Tu sais très bien que Leverkusen est largement supérieur au Holstein Kiel, qui est un club promu et qui, à mon avis, devrait redescendre. Et puis, tu mènes 2-0 tranquille. Tu exploses tout le monde. Tu t'amuses. Tu en profites même pour remettre dans le 11 de départ Hoffmann, qui était un peu aux abonnés absents depuis le début de saison. Tu refais reculer Andrich. Palacios vient. Deux passes décisives tranquilles. Tu dis, ça va finir 5-0. Et enfin, Leverkusen, à l'image de ce qu'ils peuvent faire en Ligue des Champions, a commencé sa saison. Et puis ça fait 2-2. Et ça fait 2-2 dans une équipe qui est incapable de réagir, qui, à mon avis, est en train de s'embourgeoiser. C'est pas la première fois. Ils ont eu de la chance, justement, avec ce fameux Chabita, la victoire à Mönchengladbach, le match nul contre le Bayern où ils ont souffert. Le fait, par exemple, que Xabi Alonso décide de blinder à 10 minutes, un quart d'heure de la fin contre Milan, le jour où il va se faire reprendre un 1-1, c'est pas ça. Et en fait, on a l'impression, en début de saison, je disais déjà, quand je voyais Leverkusen jouer de cette façon, etc., faut faire attention que la satisfaction de l'année dernière ne devienne pas de la suffisance, que cette facilité qu'ils ont technique ne devienne pas de la suffisance. Et moi, j'ai le sentiment d'avoir une équipe qui sait qu'elle est supérieure à son adversaire. Au bout d'un quart d'heure, elle mène 2-0 et elle lui dit « Bon, écoute, on serre la main, on va se reposer un petit peu. » Sauf que le mec en face, il n'a pas envie d'abandonner et il joue et Leverkusen eh ben, n'a peut-être plus les leaders qu'on aurait envie de revoir. En tout cas, Xabi Alonso est très, très mécontent. Radecki a eu des métaphores exceptionnelles en disant « L'année dernière, lorsqu'on rentrait sur le terrain, on savait qu'on voulait tuer l'adversaire et cette année, c'est problématique parce que le patient blessé, on le laisse en vie. Donc, on rate le 3-0. Donc, il a dit que c'était inacceptable ce qui se passait à Leverkusen en ce moment. Encore une fois, c'est pas une question de jeu. C'est une question qui sont trop faciles et ils s'amusent. Or, si tu respectes pas ton adversaire, eh ben, il risque de t'arriver ce qui est arrivé ce week-end. Et c'est pas la première fois.
Mais non, mais c'est tellement, les équipes qui ont bien mangé, retrouver la faim derrière, c'est compliqué.
Quand tu vis en Italie, on appelle ça la pancia piena, le ventre plein.
Ouais. La Pamfayela en espagnol.
Et ce qui fait peut-être la différence entre un beau club comme les Leverkusen, que j'aime beaucoup de par son histoire, et puis ce qu'ils ont produit comme génération, et les grands clubs.
Vous n'avez pas le ventre plein, mes drôles de dames, non?
Bah, ouais. Moi, ça me fait combien? C'est ma 25e saison à RMC, donc.
Donc, t'as un peu le ventre plein, ce que tu me dis?
Non, j'ai toujours faim, moi. Ah. Moi, je commence à chaque fois comme si j'étais encore pigiste.
Ça tombe bien, parce que c'est ta minute.
Elle existe dans toutes les langues, hein, cette chanson.
Ben oui, c'est une fameuse, comédie musicale américaine. Et bien sûr, en français, c'était chanté par Jacques Brel. C'est El Hombre de la Mancha, l'homme de la Mancha, le pays de Don Quichotte. Et qui est né dans la Mancha? Andrés Iniesta.
Ah,
mais oui. Bon, ben voilà, il arrête.
Ça y est.
Bah, c'est en train de s'être officialisé. Ça sera officialisé totalement demain. Il a 40 ans, il termine sa carrière. Donc c'était évident. D'ailleurs, j'avais reçu plein de messages sur Insta et sur Twitter de gens qui, enfin, sur X, gens qui disent, est-ce que tu vas parler d'Iniesta et tout ça? Bah oui, parce que c'est vraiment le joueur qui a fait l'unanimité en Espagne. Et quand on se pose la question, quel est le plus grand joueur de l'histoire espagnole, on est beaucoup à penser que c'est Andrés Iniesta.
Ah ouais.
Ouais. Pour plusieurs raisons.
Ouais.
Bon, déjà, c'est lui qui met le but de la finale, la première et unique pour l'instant en Coupe du Monde de l'Espagne en 2010. En plus, quelques temps après la mort de son ami Jarque, de l'Espagnol, et qui il soulève son maillot et il dit Jarque siempre con nosotros, Jarque toujours avec nous. Parce qu'il est aussi, au départ, il unit le pays, parce que lui, il vient de la Mancha, d'une famille très très madridiste. Son oncle est d'ailleurs un peu connu, ultra madridiste, etc. Formé au Barça, grand joueur du Barça, symbole du Barça. Un joueur qui a été applaudi sur tous les terrains d'Espagne. C'est pas évident, parce que l'Espagne, c'est compliqué entre les régions, etc. C'est quelqu'un qui a fait un peu l'union impossible. Et c'est quelqu'un qui symbolise, finalement, ce qu'il y a de mieux dans le foot espagnol. Les petits joueurs techniques du milieu de terrain. Bravo Iniesta y muchas gracias.
Ouais, magnifique joueur, même si c'est vrai que ça faisait plusieurs années qu'on a l'impression qu'il a déjà pris sa retraite, qu'il est un peu disparu des radars. Bon, c'est officiel.
Il a joué longtemps à Kobe, au Japon.
Iniesta, ça vous inspire quoi, les drôles de dames? Vous êtes étonné d'entendre dire que c'est le meilleur espagnol de l'histoire ou pas du tout?
Je sais pas. Je suis d'accord, moi.
Ouais. Moi, en tout cas, c'est l'élégance.
Belle.
Voilà, je trouve qu'un terme qui lui va bien, c'est l'élégance. Le fait que c'était un maestro au milieu de terrain, que c'est lui qui dictait le tempo, c'est lui qui accélérait quand il fallait accélérer. Très fort dans les petits espaces, pied droit, pied gauche, très intelligent, QI football énorme. Donc oui, un immense joueur.
À suivre. Les défaites allemandes.
Ouais.
En Euros, en Coupe du Monde, tout ce que tu veux.
C'est Iniesta.
C'est Iniesta. Enfin, il faudrait voir comment jouait l'Espagne à l'époque. Moi, pour moi, c'était même pas humain. C'est-à-dire que je mets ça entre guillemets, évidemment, parce que ça voudrait dire beaucoup de choses. Mais la façon dont jouait l'Espagne à l'époque, la façon de faire tourner le ballon, je sais pas si on reverra ça un jour. Quoi. C'est-à-dire, c'est des moments historiques, uniques, et il faut absolument le valider et de dire, mais attends, il y a ce moment-là. C'est le fait que l'Allemagne ne perdait qu'un zéro était presque exceptionnel, tellement on ne voyait rien. Quoi. C'est un truc fou.
Iniesta retraité. Dans un instant, la minute de Julien Laurence. La barre est haute ce soir. Attention. Et le Calcio. Le Napoli en tête du Calcio. Est-ce que c'est vraiment la meilleure équipe d'Italie sur ce début de saison? On va demander ça à Johan. Génération After. Spécial drôle de dame continue en direct jusqu'à 22h. À tout de suite.